RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Ouagadougou et en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Pierre Boudias, l'opposition ivoirienne en ordre de bataille.
Le PDCI RDA était en meeting hier au nord d'Abidjan. À un an des présidentielles, son dirigeant Tidjane Thiam a battu le rappel de ses troupes. L'inquiétude des familles de militaires au Burkina Faso. Dans une lettre envoyée aux autorités religieuses, un collectif de femmes s'inquiète du sort de leurs époux introuvables. RFI a pu recueillir le témoignage de l'une de ses signataires. Mahamat Idriss Déby Itno, au sommet de la hiérarchie militaire, le président tchadien élevé au rang de maréchal hier. Une cérémonie qui provoque des réactions mitigées dans la capitale, vous l'entendrez. Et puis le Cameroun réinvente sa poésie. Ces dernières années, nouvelle génération tant francophone qu'anglophone réinvente le genre dans le pays. Le dossier de RFI Matin vous fera écouter ces artistes à la sensibilité exacerbée.
Démonstration de force au sein du PDCI de l'opposant ivoirien Tidjane Thiam.
Le président de la plus ancienne formation politique du pays organisait hier après-midi un meeting dans la ville d'Abouasso à une centaine de kilomètres d'Abidjan. L'occasion de célébrer les un an de son élection à la tête du parti d'opposition et de communier avec des participants venus nombreux à moins d'un an de la présidentielle d'octobre 2025. Abdoul Aziz Diallo était présent pour RFI.
Vêtus de t-shirts aux couleurs du parti, le vert et blanc, les militants et sympathisants du PDCI-RDA ont pris massivement d'assaut la place Elingan d'Abouasso. Objectif, réaffirmer leur soutien à leur leader, Tidjane Thiam. Pour ce militant enthousiaste, l'ancien patron du Crédit Suisse est l'homme de la situation.
Il n'y a pas de doute, c'est le profit qu'il faut. Nous, au PDCI, notre choix, c'est président Tidjane Thiam. Il est notre choix pour pouvoir terrasser le Baba Alassane Ouattara en 2025. Thiam le fera.
Quand Tidjane Thiam fait son entrée, la foule exulte. Dans son discours, il expose sa vision de la Côte d'Ivoire, articulée autour de 5 priorités, avec un accent particulier sur l'éducation et la santé. L'ancien ministre du Plan n'a pas hésité à adresser des critiques aux autorités actuelles.
Nous sommes un pays pauvre et pourtant, l'attention aux plus démunis n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. On en veut pour preuve toutes les opérations de démolition des habitations, de déguerpissement sans mesure d'accompagnement social et sans humanisme. L'inflation est intenable. Les prix des denrées alimentaires augmentent.
Concernant la présidentielle de 2025, Tidjane Thiam a plaidé pour une proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Une mesure qu'il estime essentielle pour garantir la transparence du scrutin. Abdelaziz Diallo, Abouasso, RFI.
Tidjane Thiam, qui n'a pas encore été désigné officiellement candidat de son camp pour la prochaine présidentielle, le député et ex-ministre Jean-Louis Billon revendique également ce poste. Les femmes et les familles de militaires burkinabés inquiètent du sort réservé à leurs époux. Le 19 novembre dernier, un collectif de femmes envoyait une lettre à la Fédération des associations islamiques du Burkina. Une correspondance qui expose l'inquiétude de plusieurs femmes sans nouvelles de leur mari, qui demeure introuvable et dont les noms ne figurent sur aucun registre. Paul Langerie a pu s'entretenir avec certaines d'entre elles qui ont donné leur accord pour diffuser cet appel à l'aide tout en ayant requis l'anonymat.
C'est un cri du cœur et un appel au secours face à une situation insoutenable et éprouvante. Dans une missive qu'elles auraient préféré garder secrète, des femmes de militaires racontent les conditions pénibles dans lesquelles elles vivent depuis la disparition de leur mari, la plupart n'ayant plus de nouvelles de leur part depuis août dernier. On ne sait pas où ils sont, nous avons peur qu'ils subissent des traitements qui ne devraient plus avoir lieu en 2024, se risque l'une d'entre elles. La lettre revient notamment sur le décès de deux femmes qui ont perdu la vie en accouchant sous le poids de l'incertitude. Laissées pour compte, elles témoignent de la fatigue psychologique et physique qu'elles subissent, des résultats scolaires de leurs enfants en baisse et des différents recours formulés au gouvernement sans succès. « Nous ne voulons surtout pas entrer dans un bras de fer avec les autorités », insiste pour autant la femme au bout du fil, allant dans le sens d'un paragraphe de la lettre qui reconnaît que le président du Burkina Faso est l'unique autorité compétente pour prendre des décisions à ce sujet.
Paul Langerie. Le terrorisme frappe à nouveau dans le centre du Mali. Au moins 26 personnes ont été tuées lors de l'attaque vendredi dans la région de Bandiagara. De sources communautaires, 15 victimes ont été comptabilisées dans le village de Bourari et les autres l'ont été dans des villages voisins. Des incendies ont également été rapportés. Pas de revendications à ce stade, mais le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, mène régulièrement des attaques dans la zone. L'armée malienne n'a pas souhaité commentée.
Opération anti-gang, cette fois en Guinée.
Elles ont été lancées le 9 décembre dernier par le procureur de la cour d'appel de Conakry dans plusieurs quartiers de la capitale. Objectif, démanteler les réseaux de trafic de migrants ou de drogue en ciblant notamment le quartier du port. Mais ces opérations ont conduit à des dizaines d'interpellations de citoyens sierra-léonais qui ont ensuite été expulsés, entraînant des tensions entre les deux pays. Pourtant, le procureur qui entend poursuivre son coup de filet assure, les forces de l'ordre ne ciblent pas spécifiquement les citoyens sierra-léonais. Willy Diallo.
Les autorités guinéennes soupçonnent les ports de pêche de la capitale, notamment celui de Matam, où vivent de nombreux sierra-léonais, de servir de lieu de transit pour l'importation de drogue. Plusieurs dizaines de ressortissants sierra-léonais ont été interpellés puis conduits à la frontière, ce qui a provoqué un incident diplomatique entre Conakry et Freetown pendant quelques jours. Au point où le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Anda Kouyaté, s'est rendu mardi auprès du président sierra-léonais. Julius Maada Bio lui a exprimé ses inquiétudes au sujet des mauvais traitements réservés à ses ressortissants en Guinée. Et depuis, le procureur de la cour d'appel de Conakry a démenti le ciblage spécifique des sierra-léonais. Selon une source judiciaire, les forces de l'ordre ont interpellé des délinquants qui ensuite se sont avérés être de Sierra Leone. Quoi qu'il en soit, l'incident ne remet pas en cause l'opération, qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin du mois. Selon le procureur, il y aurait plus de 400 zones criminogènes à déguerpir dans les 13 communes de Conakry. Après quoi, l'opération se poursuivra dans d'autres capitales régionales comme Kindia, Boké ou encore Mamou.
Ouéli Diallo.
Une épée, un bâton, un manteau, et voilà le président tchadien maréchal.
Mahamat Idriss Déby Itno, officiellement élevé à la dignité suprême hier lors d'une cérémonie à N'Djamena. À 40 ans, il devient le deuxième homme du pays à occuper le grade. Alors que son père avait attendu 30 ans à la tête de l'État pour le devenir, le fils, lui, n'aura passé qu'un peu plus de 3 ans au pouvoir. Un symbole fort qu'il inscrit dans la continuité du père et permet au maréchal du Tchad de valider une nouvelle étape importante pour la succession dynastique. Et à N'Djamena, cette évaluation est accueillie avec plus ou moins d'enthousiasme. Sur plage, reportage Nadia Ben Mahfoud.
C'est avec une fierté raffirmée que j'adhère à la résolution du Conseil national de transition qui m'élève à la dignité des maréchals du Tchad.
Et c'est ainsi que Mahamat Idriss Déby Itno est célébré comme le deuxième maréchal du Tchad. Cape bleu et or sur les épaules, bâton étoilé à la main, casquette et lunettes de soleil, c'est avec tous les attributs d'un maréchal qu'il a quitté le tapis rouge déroulé pour l'occasion. Des images retranscrites en direct à la télévision tchadienne, cet entrepreneur de la capitale n'en a raté aucune miette. Abba Ali.
C'est amplement mérité et nous tous, c'est ce que nous avions dans le cœur et c'est ça qui a été décidé. Donc c'est un moment de bonheur et de joie pour tout le monde.
Mais cette maréchalisation ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux ou dans les rues de N'Djamena, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour critiquer. Noureddine.
Ça ne sert à rien. Le fait d'être maréchal, bon, c'est bon pour lui et pour certains, mais ça ne change pas le pays. Nous, on veut vraiment quelque chose qui va à l'intérêt de la population. Embellir ces pays-là et rendre la population heureuse.
Avec désormais un maréchal à la tête du Tchad, le pays reprend la campagne législative, provinciale et communale en cours. Les candidats ont une semaine pour convaincre les électeurs avant que les votes n'aient lieu le 29 décembre prochain. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Du sport et suite du deuxième et dernier tour qualificatif pour le Tchad 2024. Ce dimanche, au stade de Kégué de Lomé, le Togo reçoit en match aller de la double confrontation le Niger à 16h, temps universel. Une retrouvaille puisqu'en 2022 pour le Tchad, Algérie 2023, le Niger s'est qualifié aux dépens du Togo. Pour le sélectionneur du MENA local Haruna Douala, l'objectif c'est d'arracher les 3 points à Lomé avant le retour à Bamako. On l'écoute.
Je pense qu'il faut s'attendre à une très bonne confrontation. Ça va être rude. Nous croyons fermement que nous pourrons encore une fois surmonter ces difficultés déjà. Et de jouer au Togo et de recevoir le Togo à l'extérieur. Ça va être très âpre. Défensivement, on reste assez solide. Il faut aussi, à ce niveau, être très prudent, être très rigoureux. Et maintenant, maintenir ce cap pour progresser un peu dans nos actions offensives. On va aller les bousculer, les provoquer à la faute, certainement qu'ils vont en commettre. Et essayer de profiter au maximum des erreurs qu'ils pourront éventuellement commettre sur ce match. Bon, le moral est bon. Je pense que bon, on va s'appuyer sur ce qu'ils ont, le gain qu'ils ont eu dans ces matchs de championnat, plus cette période de stage pour espérer sortir vainqueur de cette double confrontation.
Et à suivre également aujourd'hui les tenants du titre sénégalais opposés au Libéria à 16h, temps universel également, Centrafrique-Cameroun, match délocalisé à Abidjan. Hier, l'Angola et Madagascar ont fait un pas vers la qualification après leurs victoires respectives 2-0 contre le Lesotho et l'Eswatini. La RDC cale face au Tchad, un but partout.
Et puis rimes et sentiments, Pierre, dans le dossier de RFI Matin.
Au Cameroun, plus précisément, une nouvelle scène poétique émerge ces dernières années. Elle est portée par des poètes tant francophones qu'anglophones, des jeunes nés entre la fin des années 90 et le début des années 2000, une dizaine d'entre eux regroupés dans le collectif Night Voices. Entendez les voix de la nuit, donnent régulièrement des spectacles dans les cafés de la capitale camerounaise. Ce week-end, ils se sont produits au Umbutu Creative Hub de Yaoundé, devant un public admiratif. Richard Onanena était présent pour RFI.
Dans sa robe traditionnelle, que les parures qui ornent son cou sublime, Latifa raconte sa douleur.
Mon cœur pleure. Je ne peux pas être celle dont ma mère rêve tant.
C'est un poème qu'elle a écrit pour dénoncer le tort que les religions peuvent causer dans les familles. C'est aussi ça, la nouvelle scène poétique camerounaise des jeunes bilingues qui écrivent pour changer les choses.
Oui, c'est mon conflit intérieur et c'est une manière pour moi de dénoncer et de m'accepter aussi. Ce n'est pas juste les musulmans qui protestent, il y a aussi les chrétiens, mais plus les religieux.
Même si la recette n'attire pas les foules, Billy et Jean-Marie sont ravis de ces découvertes.
Je pense que la poésie a disparu de nos habitudes depuis un certain temps. Et c'est ce type de soirée qui nous rappelle qu'elle est existante.
C'était une magnifique soirée. Je me rends compte que des poètes au Cameroun, il y en a vraiment, mais il faudrait aller les chercher. Il faudrait leur donner la force, les encourager à pouvoir mieux s'exercer.
Les poètes qui se regroupent dans le collectif Night Voices, les voix de la nuit, se retrouvent tous les mois, parfois devant une centaine d'amateurs de poésie, pour partager leurs textes. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Et Valérie Chiffort est un poète, auteur du recueil Remember Tomorrow, un recueil d'une cinquantaine de poèmes écrits en français et en anglais dans lequel il dépeint un portrait cru des réalités camerounaises. L'ex-animateur télé soutient cette nouvelle vague de poètes en organisant des soirées où on peut venir les écouter, déclamer leurs œuvres. Il ambitionne de créer un pont entre ces amoureux de la poésie camerounaise et l'Afrique. Valérie Chiffort.
On l'a un peu oublié pendant un moment, mais il y a une vraie renaissance avec notamment des jeunes camerounais qui sont d'expression anglophone ou francophone, et la particularité de Night Voices, qui est la plateforme dont on a commencé il y a 5 ans de notre retour au Cameroun, c'est de vraiment pousser cette dualité linguistique là chez les Camerounais, parce qu'on est quand même un pays bilingue. C'est intéressant d'avoir des poètes francophones qui écrivent en anglais, d'avoir des poètes anglophones qui écrivent et qui performent en français. Notre principe, c'est learn, earn, return. C'est vraiment apprendre, gagner en expérience, et puis redonner, former d'autres personnes, qui aient plusieurs scènes. Le but pour nous, non seulement c'est de faire un festival l'année prochaine, 2025, faire un festival sur le Cameroun, mais aussi de faire voyager des poètes sur le continent, parce que je pense que aller en France, c'est bien, tout ça en Europe. Et donc, pour nous, le but, c'est vraiment pousser l'art poétique et de réintroduire le poète camerounais dans sa dualité, dans sa splendeur.
Des propos recueillis par Richard Onanena, auteur du dossier d'RFI Matin.
Et puis, RFI vous en parlait dès vendredi, cette vente aux enchères polémique à Paris d'objets du royaume du Dahomey.
La présence d'un article de ce catalogue avait provoqué l'émoi, la récade du roi Béhanzin, sorte de sceptre traditionnel en bois ayant appartenu à un ancien souverain du royaume. Un article pillé à l'époque coloniale, selon certains, qui a été retiré à la dernière minute à la demande des autorités béninoises, selon nos informations. RFI vous explique tout dans le prochain journal Afrique à 7h30, temps universel. En attendant, RFI Matin, ça continue avec vous, Julien Coquel-Rohem.
Merci Pierre Boudias, à tout à l'heure.